La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Y a-t-il dans ce monde des plaisirs que Casanova n'aura pas connus, s'interrogeait notre invité d'hier, le philosophe Maxime Rovert. Car non seulement Casanova aimait les douceurs de l'érotisme, mais il savait également apprécier les vins et la gastronomie, tout autant que la musique de chambre, les plaisirs de la littérature et la volupté du souvenir à laquelle il s'est adonné en écrivant son grand livre « Histoire de ma vie » dans la dernière décennie de son existence, jusqu'en 1798. Cette vie, nous en avons donc tracé les grandes lignes hier lors de notre émission. Elle est disponible en téléchargement. Et puis demain, nous reviendrons sur un Casanova moins connu qui a parcouru l'Europe en aventurier et cherché à gagner de l'argent par divers moyens. C'est donc aussi d'un entrepreneur dont nous parlera le chercheur Guillaume Simian. Enfin, jeudi, en point d'orgue à notre semaine, Chantal Thomas évoquera les années parisiennes de Casanova, mais également l'épisode de La Charpillon, cette femme qui a conduit l'écrivain au bord du suicide. Il sera enfin question de la différence entre un Casanova, un Sade et un Don Juan. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler de Casanova, l'écrivain, nous sommes en compagnie de Jean-Christophe Higalens, maître de conférences à Paris-Sorbonne Université, auteur de Casanova, l'écrivain en ses fictions, publié chez Classique Garnier en 2011. Il a également coédité avec Éric Le Borgne « Histoire de ma vie », les mémoires donc de Casanova, dont le dernier tome a paru il y a tout juste un an, en avril 2018, dans la collection bouquins chez Robert Laffont. Alors avec lui, nous allons chercher à comprendre comment Casanova est devenu écrivain, comment il en est arrivé à rédiger ses mémoires à la fin de sa vie au château d'Uxe en Bohême. Et nous parlerons également de ce qu'il faudrait bien appeler aussi le roman du manuscrit de cette histoire de ma vie. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
J'écris pour ne pas m'ennuyer et je me réjouis et je me félicite de ce que je m'en complais. Si je déraisonne, je ne m'en soucie pas. Il me suffit d'être convaincu que je m'amuse, car, comme le dit Horace, j'aimerais mieux passer pour un écrivain insensé et sans art que d'être sage et de me chagriner, tant mes défauts me plaisent ou m'échappent.
Extrait d'Histoire de ma vie, lu par Guillaume Gallienne. Bonjour à vous, Jean-Christophe Higalens.
Bonjour.
Alors, Casanova écrivait, on vient de l'entendre, pour ne pas s'ennuyer. C'est en tout cas ce qu'il disait, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué que cela, parce qu'il s'est très vite réclamé du titre d'homme de lettres, et ce, même s'il ne publiait pas, ça signifie donc qu'il aspirait soit à être un homme de lettres, soit à être reconnu comme tel.
Il a sans doute aspiré tôt à être reconnu comme un homme de lettres, mais à un moment où un moment historique un peu particulier. C'est à la fois très prestigieux d'être un homme de lettres et c'est un peu indéterminé. Casanova, par exemple, lorsqu'il arrive à Paris en 1750 pour la première fois, est présenté comme un député dans la République des Lettres alors qu'il n'a encore rien écrit. Alors ça lui permet d'avoir une identité sociale alors que elle est un peu flottante, cette identité de Casanova. Que fait-il? Comment gagne-t-il sa vie? Que fait-il là? C'est la question qu'on peut toujours se poser à son propos. Et ça lui donne une sorte de position sociale. Alors, il écrit, il participe à une forme de sociabilité littéraire très importante sous l'Ancien Régime. Et dès 1752, par exemple, il commence à avoir une activité d'intermédiaire culturel. Par exemple, il adapte en italien pour une compagnie italienne à Dresde un livret de Cahusac, le livret de Zoroastre.
Donc peu à peu, c'est d'ailleurs un grand succès.
Ça lui vaut en tout cas des récompenses. Et il y a une chronique dans le Mercure qui dit que c'est une adaptation tout à fait réussie. Donc son nom apparaît dans les journaux comme un jeune homme de lettres prometteur, hein, absolument. Donc cette identité, c'est d'abord une identité sans doute un peu flottante, mais qui va peu à peu être, je dirais, confirmée par ce type de production. Néanmoins, il n'est pas du tout un écrivain professionnel, ni un écrivain qui a une pure trajectoire spécifiquement littéraire. Hein. Ça reste un écrivain d'occasion, et c'est bien plus tard, à la fin des années 1760, qu'il va véritablement tenter une forme de reconversion par les lettres, de manière plus déterminée.
Mais qu'est-ce que ça signifie aussi être un homme de lettres à l'époque ? C'est ça qu'on entend aussi dans votre réponse, Jean-Christophe Higalin, parce que c'est précisément le moment où les encyclopédistes sont en train d'essayer de définir un petit peu et peut-être de redéfinir justement ce que ça signifie que de faire cette profession-là, si tant est qu'on puisse parler de profession.
Ah, oui, c'est un temps de redéfinition et d'exploration, et c'est ce qui explique qu'on puisse se présenter comme un homme de lettres sans avoir rien publié. Ça sera encore le cas en 1761, devant Voltaire, il se présente comme un homme de lettres sans œuvre, sans publication. Mais Voltaire lui-même, d'une certaine manière, explique que l'homme de lettres se définit moins par un corpus publié que par une certaine fonction, hein, c'est-à-dire la propagation de l'esprit philosophique dans la société. Donc quand on accomplit cette fonction, on peut d'une certaine manière prétendre relever de cette catégorie qui reçoit quelque chose du prestige du philosophe. Il y a donc des ambiguïtés, des ambivalences. Dans le même temps, on voit apparaître des professionnels de la littérature, des entreprises qui rémunèrent des intellectuels salariés, pensons à l'encyclopédie justement. Alors Casanova, lui, n'est pas du tout du côté de ce modèle-là, émergent aussi à l'époque. Il bénéficie plutôt des ambiguïtés, de l'ambivalence, de la zone grise, disons, hein, qui accompagne le prestige nouveau du philosophe et de l'homme de lettres dans un temps où il n'est pas encore certain qu'il soit obligatoire d'avoir une œuvre pour être considéré comme un homme de lettres.
Donc dans cette première partie de sa carrière, disons autour de ses 27, 28, 29, 30 ans, il est donc homme de théâtre. Quel genre de théâtre fait-il ? Est-ce que le fait qu'il s'arrête à un moment donné d'explorer finalement ce genre signifie un échec pour lui ?
Sa mère est actrice et lui pratique le théâtre, mais plutôt comme intermédiaire culturel plutôt que comme auteur.
Hein. Il fait des adaptations.
Voilà, exactement. Il a le livret de Zoroastre. Il donnera aussi, il travaillera sur une traduction de l'écossaise, de Voltaire. C'est aussi un temps où on a besoin de ces figures de passeurs. Hein. Donc Casanova, homme de lettres, c'est aussi un passeur de culture. Il a une culture italienne, une culture française. Il voyage dans toute l'Europe. Et Casanova, homme de lettres, jusqu'à la fin des années 60, c'est un passeur de culture, un passeur de littérature, plus qu'un auteur qui produirait une œuvre personnelle.
Parce qu'il n'est pas mûr encore pour prendre lui-même la parole ?
En tout cas, ce n'est pas son activité première. Il a bien d'autres projets, vous en parlerez sans doute demain, hein, mais il n'a pas encore constitué, je dirais, ce projet d'être reconnu socialement, spécifiquement comme écrivain et de produire une œuvre qui lui soit propre.
Je crois que Casanova est essentiellement un homme de théâtre et l'homme de la Commedia dell'arte. Et tous les amis qu'il va retrouver en Europe sont toujours des gens de théâtre. Et ce que Casanova peut-être veut nous apprendre, c'est précisément à rire. Dans sa préface, il explique que s'il écrit ses mémoires, c'est pour avoir de bons souvenirs, pour se consoler dans sa vieillesse, mais c'est d'une part lui pour rire et pour faire rire. Et il dit « je crains par-dessus tout, comme un homme de théâtre, je crains par-dessus tout les sifflets. Si ceux qui lisent mes mémoires ne rient pas, alors là, je serai tout à fait triste. Je ne serai plus un bon acteur. »
Que retenez-vous, Jean-Christophe Higalin, de ce que disait à l'instant François Roustan à Gérard Gromeur dans une archive de 1986 ?
Oui, ce lien avec de Casanova avec le théâtre est tout à fait fondamental. Il va d'ailleurs au-delà de la question du rire ou de l'auteur qui veut faire rire. Pour Casanova, l'identité a quelque chose de théâtral, fondamentalement. C'est quelque chose qu'il explore dans l'histoire de ma vie. Un personnage est peut-être plusieurs personnages, c'est-à-dire qu'on n'est pas déterminé par un personnage fixé une fois pour toutes. Il faut être disponible. Une situation, un moment existentiel peut proposer une diversité de rôles qu'il faut avoir la disponibilité d'investir. Et le masque de théâtre, ce n'est pas seulement quelque chose qui dissimule, c'est quelque chose aussi qui manifeste une identité, qui montre. Mais ça veut dire aussi qu'on peut changer de masque et que l'identité n'est pas figée une fois pour toutes. Et Casanova écrivain, jusque dans l'histoire de ma vie, est proche du théâtre par ce rapport à la part théâtrale de l'identité.
Et s'il a besoin de faire un peu de théâtre, c'est aussi parce qu'il voyage beaucoup en Europe et à chaque fois qu'il se présente à de nouvelles personnes, il se présente non pas sous un nouveau masque, mais peut-être en accentuant un trait ou un autre.
Alors, la vie sociale elle-même est théâtrale. Casanova tire profit d'une situation sociale qu'il n'invente pas. Les identités, par exemple, ne s'établissent pas comme aujourd'hui. On ne montre pas sa carte d'identité. On est encore dans une culture des apparences où on manifeste son identité sociale, notamment par des signes. Est-ce qu'on a un carrosse avec une livrée? Quel train de vie est-ce que l'on a? Qui est-ce qui vous présente dans la société?
Comment sait-on parler?
Voilà. Et c'est ainsi que Casanova se présente dans une société avec des lettres de recommandation, un train de vie, des signes. Et c'est aussi comme ça qu'il peut se réinventer lorsqu'il arrive dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, parfois parce qu'il a dû fuir la ville précédente ou le pays précédent, il peut se réinventer. Donc cette part de la théâtralité dans l'identité, c'est aussi une réalité sociale.
Et cette réinvention de soi, elle passe aussi par des pseudonymes. On sait qu'il aimait changer de pseudonyme. Son préféré sera Jacques Casanova de Seingalt. Est-ce qu'on peut en tirer aussi des conclusions, selon vous, Jean-Christophe Higalens?
Oui, ce rôle des pseudonymes dans la vie de Casanova est tout à fait important. L'écrivain en parle dans l'histoire de ma vie plusieurs fois. Il propose même une théorie du pseudonyme d'une certaine manière. Il explique que chacun a le droit d'utiliser librement l'alphabet et d'inventer son nom. Après tout, il rappelle que tous les grands noms ont commencé quelque part. Que si on reçoit un nom qui n'est pas illustre ou qui est stigmatisant socialement, eh bien on a absolument le droit d'en changer. Alors, il atténue évidemment le caractère subversif de cette affirmation en disant « Bon, quand on a choisi un pseudonyme, il faut le garder, il ne faut pas être dans le mensonge absolu sur son identité. » Lui change de pseudonyme, il ne se tient pas forcément à cette règle qu'il fixe. Mais fondamentalement, dans une société d'ancien régime, très marquée par le nom, qui est quelque chose que l'on reçoit et qui définit justement votre identité sociale, votre identité tout court, dans cette société-là, Casanova dit « Moi, j'invente mon nom. » J'invente mon nom. Et nous voilà revenus à cette question d'une identité qui n'est pas figée, qui n'est pas reçue une fois pour toutes, mais qui s'invente dans un grand sens de la disponibilité et du possible. Le rapport au pseudonyme va tout à fait dans ce sens-là.
Alors Jean-Christophe Higalens, Casanova commence donc comme un intermédiaire des lettres, vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut considérer que son premier récit, c'est le récit qu'il fait de son évasion de la prison des plombs, qu'il ne va pas écrire, mais qu'il va raconter? Donc finalement, son entrée dans la carrière, à proprement parler, de, faut-il dire romancier, probablement non, mais en tout cas de personne qui raconte et qui raconte son propre, sa propre prose, non pas simplement en transformant, en adaptant celle des autres. Est-ce qu'on peut dire que ça commence avec ces récits qu'il fait par oral de son évasion?
C'est en tout cas un moment fondamental pour lui. Donc il est emprisonné, on peut rappeler, sous les plombs en 1755 pendant 15 mois. Il s'évade fin 56. Il arrive à Paris au début de l'année 1757 et il retrouve un protecteur qu'il avait rencontré à Venise, Bernice, qui l'invite à donner une version de son récit en disant ça sera une façon de vous présenter dans la société, et puis c'est romanesque, c'est tout à fait intéressant. Donc Casanova prépare cela, mais avant d'être écrit, ce récit c'est une performance. C'est une performance qui lui permet de gagner l'attention du public. Il y a une scène fondamentale dans l'histoire de ma vie. Casanova est introduit auprès de quelqu'un qui est tout à fait puissant et important à l'époque, Choiseul, et Choiseul ne se lève pas et continue à écrire pendant que Casanova arrive, ne fait pas attention à lui, mais il lui dit « racontez-moi votre histoire, vous avez 5 minutes. » Casanova lui dit « mais il faut 1 heure pour vous raconter ça. » Et Bernice lui dit « non, Choiseul lui dit non, quelques minutes. » Alors Casanova en fait un résumé en une phrase. Et son interlocuteur lui dit « mais alors, qu'est-ce que c'est les plombs ? Par où êtes-vous passé ? Comment ça s'est passé ? » Et peu à peu, Casanova lui dit « ben donnez-moi de votre temps et vous en saurez plus. » Et au fond, ce récit, c'est ce qui lui permet de mériter l'attention et le temps d'un puissant qui va devenir aussi un protecteur. Donc il découvre les pouvoirs du récit. Il les a découverts bien plus tôt, à vrai dire. Très vite, Casanova est invité par des femmes, notamment, à raconter ses aventures, d'autres épisodes amoureux. Et là, il voit très tôt que, par le récit, on a du pouvoir, d'une certaine manière. Un pouvoir qui n'est pas forcément manipulateur, qui n'est pas forcément une emprise sur l'autre, mais qui est aussi une façon de séduire, de toucher, d'attirer l'attention. Et à l'évidence, ce pouvoir du récit est un moment de naissance. La découverte du pouvoir du récit, c'est un moment de naissance pour l'écrivain Casanova.
Il y a quelque chose de Scheherazade presque dans ce que vous racontez du rapport avec Choiseul, dont il faut soutenir l'attention. C'est les mille et une nuits aussi, cette façon de raconter pour séduire, enfin ce genre démarche-là.
Oui, avec un piège, c'est qu'on peut ensuite, vu qu'il s'agit d'un récit qui n'est pas simplement un conte qui parle de personnages fabuleux, mais c'est un récit qui parle de soi-même, le piège, au bout d'un moment, peut être d'être enfermé dans le personnage que l'on a construit par ce récit. Et lorsque Casanova voudra apparaître, à partir de la fin des années 60, comme un homme de lettres sérieux, écrivant des essais historiques, traduisant Homère, ayant des projets littéraires donc d'une autre ampleur, par moment peut-être souffrira-t-il d'être toujours reconduit à cette image du fuyard et de l'aventurier. Donc c'est le double enjeu du récit. On séduit, on mérite l'attention de l'autre, on le captive, mais de notre côté, le récit est le récit de soi. Peut fixer une image qui compromet cette réinvention et ce sens du possible qui est si fondamental pour Casanova.
Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Casanova, écrivain, avec vous, Jean-Christophe Higalens. Alors évidemment, être écrivain pour Casanova, ça a aussi un rôle social, un rôle tout à fait pratique. Pour lui, être écrivain, ça a aussi pour but de séduire les autorités et de les séduire dans le but d'obtenir soit d'être tranquille, soit des prébendes et peut-être en imaginant obtenir une sorte de gloire qui va l'aider au quotidien et qui va peut-être aussi lui permettre de gagner de l'argent. C'est tout cela aussi, Jean-Christophe Higalens, pour lui écrire ?
Alors, gagner de l'argent, sans doute à certains moments de son existence, mais après ce moment de l'arrivée à Paris, disons, où il raconte sa vie, peut-être un moment très important, c'est la fin des années 60, où là, effectivement, il s'agit, comme vous le disiez, de séduire le pouvoir. Mais ça ne va pas forcément de pair avec le succès économique. Ce sont deux ambitions assez distinctes. Le moment où véritablement Casanova s'investit plus fortement, disons, dans l'écriture, c'est le moment où il veut revenir à Venise. Donc il s'est enfui à la fin 1756, il voyage pendant des années, et à la fin des années 60, vraiment, il a assez voyagé, il veut revenir à Venise. Et une première œuvre, là, publiée, tout à fait conséquente, va, dans son esprit, servir à ce projet. Il s'agit de la réfutation de l'histoire du gouvernement de Venise d'Amelot de Laoucé. Alors, l'histoire du gouvernement de Venise par Amelot de Laoucé, c'est un texte du XVIIe siècle que les autorités vénitiennes détestaient. Ils voyaient dans cet ouvrage français donc une attaque en règle contre leurs institutions. Et c'est un ouvrage du XVIIe et qui est constamment réédité. Et chaque réédition, évidemment, exaspère les autorités vénitiennes. Et en 1769, Casanova, qui donc, je rappelle, n'a pas le droit de revenir à Venise, il s'est enfui des prisons de Venise, c'est un fuyard, il tourne autour de Venise, mais ne peut pas rentrer à ce moment-là, après le temps des aventures, le temps des voyages, eh bien il se dit, je vais solliciter le pardon en faisant quelque chose que je suis peut-être le seul à pouvoir faire, c'est-à-dire aller réfuter Amelot. Pourquoi le seul à pouvoir le faire? Parce qu'il est vénitien, il va parler pour Venise, mais il n'est pas dans Venise. À Venise, on ne parle pas du pouvoir. Il y a un tabou absolu sur la politique et le pouvoir. Même s'il s'agit de dire du bien du gouvernement de Venise, on n'a pas le droit d'en parler. C'est vraiment, il y a un tabou sur cette question politique. Lui, il est à l'extérieur et son statut un peu marginal lui donne cette liberté. Il écrit cette réfutation. Alors, c'est en deux volumes et il y a un troisième volume qui est un mélange de textes anti-voltairiens. On sait que Casanova avait aussi attiré l'attention des autorités, comme on dit pudiquement, pour des écrits blasphématoires, à l'époque de sa jeunesse vénitienne. Donc, écrire contre Voltaire, c'est aussi stratégique à ce moment-là, bien sûr. Ce qui est intéressant dans ce premier grand texte publié d'écrivain, d'une certaine façon, c'est qu'il n'est pas qu'un texte de circonstance et il n'est pas qu'un texte qui vise à séduire les autorités. C'est un texte qui déborde son intention de toutes parts et qui craque.
On va parler de cela parce que c'est très important, le côté rhapsodique justement de l'écriture de Casanova. Est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà si ça a été un succès ou un échec, cette espèce de côté flagorneur tout de même que Casanova fait montre auprès des autorités de Venise?
Dans l'histoire de ma vie, Casanova dit qu'il obtiendra le pardon des autorités en grande partie grâce à ce texte. En réalité, il n'obtiendra un sauf-conduit des autorités vénitiennes que 5 ans plus tard, après avoir rendu des services beaucoup plus concrets et beaucoup moins littéraires. Donc on peut douter que l'œuvre soit efficace.
Comment ? Comme par exemple, quel
genre alors, de service ? Alors, il va espionner des moines arméniens qui installaient une imprimerie aux portes de Venise. Alors ça ne plaisait pas du tout... Ça plaisait pas du tout aux autorités vénitiennes. Il va aussi se préoccuper d'un trajet commercial qui risquait de nuire aux intérêts de Venise. Donc des intérêts vraiment commerciaux, liés à la librairie, liés à la circulation. Bon, voilà, des intérêts de cet ordre-là. Donc très pratiques, sans rapport avec la littérature. Et donc sa réfutation, semble-t-il, est reçue poliment, avec intérêt, mais elle ne lui mérite pas le pardon. Et si on en parle un peu plus longuement tout à l'heure, on ne s'en étonnera pas, parce que c'est un texte qui vraiment ne respecte pas du tout son intention initiale.
Ah bah alors parlons-en justement, c'est d'ailleurs là où sans doute on voit que c'est vraiment un écrivain, Casanova. Absolument. C'est-à-dire qu'il se donne un but qui est un but pratique, mais il ne peut pas s'y tenir parce qu'il part toujours dans ce qu'on pourrait appeler des digressions, c'est ça ?
Tout à fait. Casanova présente son texte comme une rhapsodie. Alors rhapsodie parce qu'il emprunte largement à d'autres auteurs, dont il prélève des morceaux et qu'il remet dans son texte, mais aussi rhapsodie par la digression. Le texte est dévoré par les digressions, par des notes qui occupent toute la page, quand le texte principal occupe à peine quelques lignes, et cela pendant des pages et des pages.
Et des digressions qui parlent de quoi ?
Alors qui parlent de bien des choses, qui parlent en dehors du sujet même de la réfutation, par exemple de lui. Il va raconter un épisode qui est lié à son premier amour, le moment où il est témoin d'un exorcisme sur une jeune fille qui s'appelle Bettine. Alors il décrit ça avec quand même une certaine distance, une certaine ironie, donc on voit qu'on n'est plus du tout dans cette façon de faire allégeance aux autorités, puisqu'on est au contraire dans la distance, dans l'ironie. Il écrit quelque chose qui est assez étonnant, il dit « je vais multiplier les discrétions parce que je refuse de me corriger ». C'est tout à fait intéressant. Alors se corriger, ça veut dire se censurer, mais au moment où il demande le pardon des autorités, ça veut dire évidemment tout à fait autre chose. Et donc il va parler de nombreux sujets, les fêtes de l'Antiquité, des souvenirs personnels, ses rencontres avec des personnages tout au long de ses voyages, le souvenir de cette jeune fille qu'il a aimée très jeune. Donc de toutes parts, l'écrivain déborde, l'écrivain d'idées, qui veut montrer son rapport avec de grands débats des Lumières et du XVIIIe siècle, indépendamment de ce qu'il a à dire aux inquisiteurs de Venise, et le futur autobiographe qui expérimente dans les notes une expression à la première personne qui est bien éloignée de l'intention pratique première du texte.
Mais donc on a une sorte de brouillon de l'histoire de ma vie avec ces digressions-là ?
On saisit sur le vif la pression d'une écriture et d'un laboratoire autobiographique, en tout cas. Thank you.
compagnie des auteurs sur France Culture. Alors il faut se rendre compte, Jean-Christophe Higalens, de l'extraordinaire diversité de tous les genres qui ont été abordés par Casanova. Ça peut être aussi vu comme un échec, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun genre qui puisse réellement le retenir. Qu'en pensez-vous ?
Je ne pense pas. D'abord, il y a là aussi, Casanova est un écrivain de son temps. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où les genres bien codés, bien normés, ça a du mal à fonctionner. Hein. Beaucoup d'écrivains contemporains de Casanova ont ce rapport à l'écriture qui fait craquer les genres littéraires. Hein. Pensons à Yves de la Bretonne, par exemple. Hein. Bon, mais bien d'autres, on pourrait multiplier les exemples. Mais vous avez parfaitement raison, il y a une grande diversité d'écriture. Nous avons parlé de la réfutation d'un ouvrage historique. En 72, c'est une petite brochure médicale, l'Anna Caprina, laine de chèvre, hein, c'est emprunté à Horace. Il se moque de la controverse médicale en disant ce n'est que de la laine de chèvre.
Bon. Alors c'est sur quoi? Parce qu'on peut
Alors
dire
c'est
un
sur
petit peu...
une question absolument fondamentale. Hein. Les femmes pensent-elles avec leur utérus? Voilà. Alors c'est une question médicale qui a pu exister, qui est dépassée hein, dans les années 70. Mais pourtant, dans l'université de Bologne, il y a une controverse entre deux médecins, l'un soutenant cette thèse tout de même dépassée par la médecine de l'époque, l'influence de l'utérus sur la pensée féminine, et l'autre la contestant, mais de façon très pesante, très académique. Casanova intervient dans un texte satirique en disant que, évidemment, le médecin qui défend l'hypothèse d'une influence de l'utérus sur la pensée des femmes dit une sottise, mais que celui qui prend la peine de le réfuter dans des termes trop sérieux n'est peut-être pas beaucoup plus habile. Et lui, donc, choisit la voie satirique d'une certaine façon pour défendre l'idée qu'entre hommes et femmes, s'il y a des différences, elles viennent de l'éducation et pas de cette détermination par les organes.
Donc, de la traduction aussi, hein, on l'a dit avec le texte de Homère. L'histoire, de manière directe, avec son histoire des troubles de la Pologne.
Absolument. Donc, l'histoire des troubles de la Pologne, là aussi, un projet tout à fait significatif, hein, qui paraît en 1774. Donc, oui, on est vraiment dans ce moment des œuvres avec une certaine ambition, hein, 69, puis 74.
Là encore, il s'agit de se légitimer aussi par rapport aux autorités, et aux autorités de Venise, peut-être en particulier.
Absolument, et peut-être aussi de trouver un métier de plume, parce qu'on n'est pas forcément un professionnel des lettres avec ce genre d'œuvres qui ne rapporte pas forcément beaucoup d'argent, mais on montre des qualités qui peuvent être rétribuées si on devient secrétaire, par exemple, secrétaire d'un ambassadeur ou d'un puissant. Bon. Alors, il y a aussi d'autres enjeux. C'est un sujet qui passionne Casanova, l'histoire des troubles de la Pologne. Il a voyagé en Pologne hein, en 1766. Il a été témoin des troubles politiques. Alors, cette expression de trouble, elle revient tout le temps à l'époque à propos de la Pologne. En 72, souvenons-nous, hein, le territoire de la Pologne est démembré, hein, est partagé. Avec la Pologne souffre de l'influence et des jeux de pouvoir notamment entre la Russie et la Prusse. Hein. Il y a donc quelque chose. Et Casanova a été témoin de cela. Il a voyagé, il a parlé avec les acteurs de ce grand moment historique. Il a aussi fait des recherches lorsqu'il était sur place. Il est vraiment persuadé d'avoir une position privilégiée pour aborder cet événement historique et l'expliquer à ses contemporains. Donc il y a à la fois une ambition sans doute sociale et puis un véritable plaisir intellectuel à avoir été là où il fallait pour voir un événement historique de premier plan et à transposer donc tout cela dans une œuvre destinée au public.
Alors il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire. Il a lancé un périodique qui ne va pas fonctionner. Il va écrire un livre qui va faire, parce que ce livre critique la famille patricienne des Grimani, qui va faire que lui sera expulsé de Venise. De nouveau, il va errer en Europe, puis devenir donc bibliothécaire au château de Dux. Et là, il écrit finalement sa première grande œuvre littéraire, qui n'est peut-être pas d'ailleurs une réussite, c'est une question qu'on peut se poser, et qui est son roman Icosameron. Alors là, de quoi s'agit-il? Parce que c'est tout de même très inattendu, c'est un livre quasiment, on dirait aujourd'hui, de science-fiction.
En tout cas, il y a un rapport avec la science dans ce livre, absolument. Donc en 88, oui, Casanova donc, il a aussi fait paraître la version publiée, écrite de l'histoire de ma fuite hein, des prisons de Venise, publie une autre œuvre en 88, donc qui est L'Icosameron, grand roman utopique en 5 volumes. Alors de quoi s'agit-il? Le narrateur, Édouard, et sa sœur voyagent sur mer. Ils sont absorbés par un tourbillon qui les propulse au centre de la Terre. Et que découvrent-ils? Eh bien qu'il y a un monde au centre de la Terre.
Il est peuplé de gens très étranges.
Peuplé de petites créatures, les androgynes, les mégamicres, de créatures colorées. Hein, l'ordre social suit la couleur des mégamicres, qui est aussi lié au pouvoir de la reproduction. évidemment. Hein, cette faculté d'engendrement a une valeur fantasmatique hein, et symbolique pour Casanova. Associer la noblesse à la faculté d'engendrement, ça veut dire quelque chose pour Casanova. Voilà, il découvre donc cette société qui est à la fois un ailleurs utopique et, comme souvent les utopies, un double du monde de la surface. Hein. Ailleurs utopique puisqu'il y découvre une monarchie assez harmonieuse, une langue douce, musicale, des pratiques sociales fondées sur la caresse, donc un lien érotique à l'autre, donc toute une série, tout un versant utopique. Et puis cette société a aussi son versant dysphorique, malheureux pourrait-on dire, puisqu'il y a une sorte de double d'une Venise, de la Venise qui a chassé Casanova, hein, une république patricienne, si on veut, qui est le double de Venise de la surface.
Avec des ecclésiastiques terribles.
Alors, oui, il y a aussi un autre versant de cette écriture du double, hein, pourrait-on dire. Et on voit les manipulations d'un clergé mal intentionné qui essaie de nuire au narrateur, Édouard. Et puis cette république hein, qui est un régime inquiétant et qui s'oppose à la monarchie idéalisée du bon peuple des mégamicres. Autre aspect passionnant de ce roman, Édouard fonde sa propre société. Alors, double aspect. D'abord, il fait son chemin chez les mégamicres. Comment ? En introduisant un certain nombre d'inventions. Et alors là, je ne sais pas si c'est de la science-fiction, parce qu'il y a un rapport avec la science, mais aussi la science de son temps, parce que Casanova s'inspire énormément de l'encyclopédie pour décrire toute une série d'inventions, mais qui existent déjà dans le monde de la surface, dans le monde des mégamicres. Donc, ce n'est pas de l'anticipation, c'est une sorte de description d'une trajectoire heureuse d'un aventurier qui réussit à trouver sa place dans la société parce qu'il diffuse un savoir venu d'ailleurs. Et ce savoir, Casanova l'emprunte bien souvent à l'encyclopédie. Pensons à l'opération de la cataracte, par exemple, dont il reprend la description dans l'encyclopédie et grâce aux planches aussi de l'encyclopédie.
Alors ce qu'il faut dire, c'est que quand même dans ce roman, il y a une place très importante qui est dévolue à l'inceste et ça permet à Casanova d'interroger les fondements, les normes de la société et notamment sur ce plan-là. C'est ça le cœur du livre. C'est un roman à thèse en fait.
C'est un des fils narratifs tout à fait importants. À côté de la société des mégamicres, Édouard, le narrateur, va fonder sa propre société et celle-ci est fondée sur l'inceste entre le frère et la sœur. Aussitôt qu'ils arrivent au centre de la Terre, Édouard et sa sœur commettent l'inceste, mais en ne ressentant absolument aucun sentiment de culpabilité. On le comprend très tôt. L'hypothèse fictionnelle narrative, c'est que ce monde du centre de la Terre, c'est le monde sans le péché et sans un certain nombre de prohibitions sexuelles. Bon. Et dans ce monde-là, au fond, la question qui se pose est de savoir si cet inceste du frère et de la sœur est une horreur du point de vue de la nature ou si l'interdiction de l'inceste est d'origine purement sociale. Et c'est une question qui agite hein, les philosophes du XVIIIe siècle. Casanova crée un dispositif narratif qui présente l'inceste comme une prohibition d'origine sociale. Hein.
Qu'il ne condamne pas d'ailleurs, il ne dit pas « c'est affreux, on nous empêche de faire l'amour entre frères et sœurs ». Il montre que c'est... il déconstruit, dirait-on aujourd'hui, le fait qu'on ne peut pas faire l'amour entre les membres d'une même famille, mais il dit aussi que c'est normal parce que c'est comme ça qu'une société fonctionne.
Alors on peut distinguer peut-être l'Icosaméron et l'histoire de ma vie. La thématique incestueuse est aussi fondamentale dans l'histoire de ma vie, donc dans l'autobiographie. Dans l'Icosaméron, vous avez raison de le rappeler, hein, il ne hurle pas contre l'interdit de l'inceste, puisque, en définitive, Édouard, le législateur de cette société humaine au centre de la Terre, va finir par lui-même instituer une forme de prohibition. C'est-à-dire qu'au début, la société humaine qui est née à partir de l'inceste d'Édouard et de sa sœur fonctionne sur un mode incestueux. Hein, il y a à chaque fois des couples de jumeaux qui procréent entre eux. Et puis, au fur et à mesure que la société comprend plus de membres, va se produire à la fois le hasard de l'amour, hein, on tombe amoureux en dehors de ce couple gémellaire, et donc à la fois le hasard de l'amour, et puis la complexité des alliances familiales. Et là, au fond, Édouard, qui au début avait imposé ce fonctionnement incestueux, va expliquer qu'il est temps de passer à un fonctionnement social fondé sur la différence et donc de dépasser ce stade de l'inceste.
Allez Jean-Christophe Higalens, on va continuer de parler avec vous de Casanova, écrivain, mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver la chronique d'Étienne de Montetti.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour Étienne de Montetti.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes rédacteur en chef du Figaro littéraire. Vous venez nous parler aujourd'hui du livre de Cécile Villomet qui paraît aux dilettantes sous le titre « Des écrivains imaginés ».
Oui, des écrivains personnages de nouvelles, pourquoi pas ? Et c'est l'idée de cette auteure nommée Cécile Villomet, dont les héros s'appellent non pas Casanova, mais Nerval, Colette ou Duras.
Ça aurait pu, hein.
Ça aurait pu, exactement. Dans l'une d'elles, par exemple, Charles d'Orléans, le poète bien connu qui est en exil, est importuné par une jeune fille qui prétend avoir des voix pour bouter l'anglais hors de France. Et évidemment, pour ce doux poète, cette jeune fille est d'abord une raseuse. Dans une autre nouvelle, Mallarmé, par exemple, est chargé de cours à l'université de Besançon et il est très bien vu et scrupuleusement noté par l'inspection qui lui promet un grand avenir dans la carrière professorale. Bref, l'écrivain choisi par Cécile Villomet n'est toujours qu'un prétexte et l'œuvre et la vie de cet écrivain ne sont que des prétextes pour donner libre cours à la fantaisie de Cécile Villomet. Par exemple, un jeune employé culturel cherche obstinément un écrivain à amarrer à sa bonne ville, qui est une petite ville moyenne de France où il ne se passe jamais rien, et ce afin d'obtenir des labels et des subventions. Et cet employé remarque que Kleist est probablement peut-être passé dans la région. Ce n'est pas avéré, mais le jeune homme s'empare de Kleist pour organiser de bout en bout une manifestation culturelle ou festive, je dirais, comme on en voit fleurir beaucoup en province, notamment l'été. Bref, on est dans un ton extrêmement sarcastique, parfois même grinçant. Par exemple, cette nouvelle où elle invente un déjeuner entre Morand, Giraudoux et Céline qui déjeunent ensemble. On est dans le Paris de l'occupation et chacun raconte l'incendie du bazar de la charité qui est survenu un demi-siècle plus tôt et chacun fait assaut de détails horribles et dans le même mouvement évidemment il se montre absolument indifférent ou aveugle aux horreurs qui ont lieu à ce moment-là en Europe et sous leurs yeux.
Mmh. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet auteur Cécile Villomet ?
Mais non, il n'y a aucune information dans le livre, à ceci près que c'est son premier livre, et que l'éditeur nous dit qu'elle est franc-comtoise. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été élevée au lait de Marcel Aimé, son compatriote franc-comtois, parce qu'à l'évidence, le confort intellectuel, le titre d'un livre magistral d'Aimé, agace Cécile Villomet, et ses frères en persiflage, ses frères contemporains, je dirais, seraient Benoît Duteurtre ou Bernard Querini ou Patrice Jean. En témoigne, par exemple, un portrait vachard d'un personnage qu'elle invente, qu'elle appelle Madame Topin Miflu, et dont elle fait une redoutable militante de l'écriture inclusive et féministe, et qui est acharnée à détrôner La Fontaine et Molière au profit de Antoinette Desoulières, une poétesse du XVIIe siècle, qui évidemment n'arrive pas à la hauteur des deux auteurs ci-dessus nommés. L'idée de Cécile Villomet, c'est moins de faire assaut d'érudition ou même de polémique. Ce qu'elle veut, c'est faire rire de notre époque, de nous-mêmes après tout, et de ce temps qu'est le nôtre où nous sommes entichés de culture au risque de faire parfois des écrivains que nous aimons des marionnettes pour nos chimères. Et donc elle raille la politique culturelle convenue, la littérature militante, même la littérature morale. Et il faut reconnaître que c'est assez bien vu parce que de nos jours, par les temps qui courent, les procureurs pinards, vous savez, ceux qui ont persécuté Flaubert et Baudelaire, ont des héritiers vigoureux et entreprenants. Et lisant quelques-unes de ces nouvelles, je pensais à notre époque où, à la Sorbonne, par exemple, Échille a été interdit par des associations.
Mmh. Alors est-ce qu'il faut connaître les œuvres et les auteurs qu'elle évoque pour comprendre ses références et ses clins d'œil ?
Non, pas forcément. Par exemple, moi j'ignorais que Conan Doyle avait peut-être eu comme chauffeur Bono, le célèbre Bono de la bande à Bono. Et dans une autre scène, par exemple, une autre nouvelle, par exemple, inutile de connaître sur le bout des doigts la vie de François Dolto pour goûter une scène où la future psychanalyste enfant boit les paroles de son père racontant la vie de Baudelaire et les relations conflictuelles que celui-ci avait avec son beau-père. Mais évidemment, il est probable que quand on connaît un petit peu le fond de chaque auteur, on savoure d'autant. Mais il faut le dire, chaque nouvelle, je crois, se tient en soi comme un exercice littéraire accompli. Et à peu près chaque pas, on savoure la drôlerie d'une jeune auteure qui se revendique de Blois et de Philippe Muret, et dont effectivement le ton porte la marque de ses lectures séditieuses. Pour conclure, on dira que la dame n'a pas froid aux yeux, mais qu'elle ressuscite avec brio un genre qui est un peu négligé dans la littérature actuelle. C'est un genre qu'on pourrait appeler peut-être l'insolence ou le mauvais esprit.
Cécile Villomet, des écrivains imaginés, c'est aux éditions Le Dilettante. Merci beaucoup Étienne de Montetti. On vous retrouve chaque semaine dans les colonnes du Figaro littéraire. À bientôt. Écoutez toujours la compagnie des auteurs et vous êtes bien sûr France Culture. C'est le deuxième volet de notre série consacrée à Giacomo Casanova avec aujourd'hui Jean-Christophe Higalens qui nous parle du parcours de l'écrivain, lequel prend toute sa dimension au moment où Casanova se met à se raconter lui-même en rédigeant « Histoire de ma vie ».
J'ai écrit mon histoire et personne ne peut trouver à y redire. Mais suis-je sage, la donnant au public que je ne connais qu'à son grand désavantage ? Non. Je sais que je fais une folie. Mais ayant besoin de m'occuper et de rire, pourquoi m'abstiendrais-je de la faire ? Un ancien me dit, en ton d'instituteur, « Si tu n'as pas fait des choses dignes d'être écrites, écris-en au moins qui soient dignes d'être lues. » C'est un précepte aussi beau qu'un diamant de première eau, brillanté en Angleterre, mais il m'est incompétent, car je n'écris ni l'histoire d'un illustre, ni un roman. Digne ou indigne, ma vie est une matière. Ma matière est ma vie. L'ayant faite sans avoir jamais cru que l'envie de l'écrire me viendrait, elle peut avoir un caractère intéressant qu'elle n'aurait peut-être pas si je l'avais faite avec l'intention de l'écrire dans mes vieux jours et qui plus est de la publier. Dans cette année 1797, à l'âge de 72 ans, où je peux dire « Vixi », quoique je respire encore, je ne saurais me procurer un amusement plus agréable que celui de m'entretenir de mes propres affaires et de donner un noble sujet de rire à la bonne compagnie qui m'écoute. Me rappelant les plaisirs que j'eus, je me les renouvelle et je ris des peines que j'ai endurées et que je ne sens plus. Pour ce qui regarde mon avenir, je n'ai jamais voulu m'en inquiéter en qualité de philosophe, car je n'en sais rien. Je sais que j'ai existé, et en étant sûr par ce que j'ai senti, je sais aussi que je n'existerai plus quand j'aurai fini de sentir.
Une lecture par Guillaume Gallienne. Qu'est-ce qui vous retient dans cet extrait, Jean-Christophe Higalens ?
Les mots de Casanova, la langue de Casanova qu'on a deviné dans cet extrait, avant de parler plus généralement de l'histoire de ma vie, on peut donc rappeler, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas évident encore, que l'histoire de ma vie est écrite en français directement par Casanova.
En partie pour que le texte ait une dimension européenne, mais peut-être aussi par rapport à la langue elle-même, qui correspondait bien ou que Casanova aimait en particulier.
Donc Casanova a parlé le français lors de ses voyages à travers l'Europe, bien évidemment, et ça devient sa langue d'écrivain après sa deuxième fuite de Venise. Donc il quitte Venise en 1783 et commence vraiment à publier en français quelques années plus tard. Donc L'Icosaméron, dont on parlait, c'est déjà écrit en français, par exemple. L'histoire de ma vie est écrite en français. Il veut s'adresser à la bonne compagnie européenne. Il a fait sans doute, il a aussi abandonné la langue de ses déconvenues vénitiennes et italiennes, mais surtout, il développe un rapport d'écrivain très profond et très personnel avec la langue française. Mais le français de Casanova, on l'a entendu dans l'extrait qui vient d'être lu, c'est un français, comme dit Casanova, habillé à l'italienne. Ce n'est pas le français des puriste. Casanova, dans une de ses préfaces, s'en prend aux puristes constipés qui voudront, après sa mort, peut-être, corriger sa langue pour en faire un français pur et non pas ce français mêlé d'italianisme qui est sa langue.
C'est d'ailleurs bien ce qui est arrivé.
C'est ce qui lui est arrivé, en effet. Alors, l'histoire éditoriale de Casanova est très riche, il y a un véritable roman du manuscrit. Casanova écrit en italien, qui écrit en français. La première édition de Casanova est en allemand, c'est dans une traduction allemande, dans les années 1820. En 1820, l'éditeur allemand Brockhaus achète le manuscrit. Entre 98 et 1820, le manuscrit disparaît, il est acheté en 1820. Il y a d'abord une édition allemande, dans les années 1820. une traduction allemande qui a beaucoup de succès, si bien qu'il y a une traduction française pirate. Donc Casanova en français pour la première fois, c'est dans une traduction de l'allemand. Alors c'est quand même assez étonnant. Et puis l'éditeur allemand, se rendant compte que le texte a beaucoup de succès, le fait paraître aussi en français, mais considère que le texte ne peut pas paraître en l'état. Peut-être il est trop libre du point de vue des mœurs, trop libre aussi du point de vue de la langue. C'est-à-dire que ce français plein d'italianisme, avec revendiqué par Casanova comme des faits de style, véritablement c'est impensable et incompréhensible au XIXe siècle. Et donc, le texte de Casanova est corrigé par un adaptateur, et lorsqu'il paraît en français pour la première fois, c'est en partie censuré, parfois modifié, réécrit, et en tout cas, dans tous les cas, je dirais... privé de cette texture linguistique propre à Casanova.
Donc cet adaptateur, c'est un professeur de français qui vit à Dresde et qui s'appelle Jean Laforgue. À quel point fait-il du mal finalement au texte de Casanova ?
Alors, il fait beaucoup de mal évidemment au texte de Casanova, mais rappelons malgré tout que donc c'est le texte qu'on va lire jusqu'en 1960 et que les premiers grands lecteurs de Casanova vont l'aimer malgré ses interventions tout à fait importantes.
Parce que lui-même va rajouter un peu ses fantasmes, exactement. Il va rajouter un certain nombre de
On est surpris parce que le cahier des charges est très clair. Il faut que la langue de Casanova devienne plus proche d'un français standardisé, mais il faut aussi que toute une série de scènes érotiques disparaissent. Il faut que ce soit plus chaste du point de vue linguistique et du point de vue moral. Eh bien, Laforgue, évidemment, accomplit sa mission, mais parfois, il se laisse aller et il injecte ses propres fantasmes. Et là où Casanova emploie une métaphore tout à fait convenue, parlant d'un sacrifice sur l'autel de Vénus, eh bien, Laforgue va, pendant plusieurs lignes, projeter sa propre description érotique et sur le texte de Casanova. Au fur et à mesure que le texte avance et que son travail d'adaptation avance, il semble qu'il le fasse plus. Donc, il y a une étrangeté, bien sûr.
Donc, il faut attendre le XXe siècle pour retourner dans les années 1960 à un texte original. Et là, avec une édition qui n'est peut-être pas, en revanche, très intéressante selon vous.
Alors, en 1960, enfin, on a le texte de Casanova et plus le texte de Laforgue, pas le texte réécrit, corrigé par Laforgue, mais c'est un objet très étrange parce que en 1960 sont conservées toute une série d'opérations éditoriales qui nous coupent du texte de Casanova. Par exemple, on reprend un découpage du manuscrit qui n'est pas celui de Casanova. Chez Casanova, il y a 10 tomes, là on est en 12 volumes. Mmh. Donc l'organisation même du récit en chapitres, en tomes voulu par Casanova n'est pas respectée. Alors ça, c'est évidemment une intervention assez coûteuse, parce qu'il y a des effets de rythme et de sens liés à l'organisation du récit et qui disparaissent. Et là, on sait quand même une véritable édition à partir du manuscrit de Casanova, donc c'est sans commune mesure avec ce dont on disposait jusque-là, mais les éditeurs qui ont pu avoir accès au manuscrit ont eu brièvement accès au manuscrit, et donc je dirais que leur travail a souffert de la précipitation dans laquelle ils ont travaillé.
Et alors aujourd'hui, ce manuscrit, il est retourné en France, il est en France, à la Bibliothèque nationale de France, puisqu'en 2010, il a été acheté par cette institution. Pourquoi était-ce si important, selon vous, pour la Bibliothèque nationale, de racheter ce manuscrit ?
Oui, vous avez raison de le dire, ce n'est pas un retour, c'est pour la première fois le manuscrit de Casanova est en France. Et cette acquisition prend acte, d'un fait qui s'impose à tout lecteur de Casanova. Casanova est un grand écrivain de langue française. Il invente sa propre langue, ce qui n'est pas rien dans ce français plein d'italianisme. Il procure un des grands récits autobiographiques de la fin du XVIIIe siècle, sans doute aussi un témoignage passionnant sur la vie du XVIIIe siècle en France et en Europe. Et il livre un texte littéraire de toute première importance. Donc cette acquisition, d'une certaine manière, constate l'importance de l'écrivain et peut-être le consacre.
Il fait partie du patrimoine aujourd'hui du français.
Et européen.
Et de l'Europe et de la francophonie en général. Vous avez parlé d'autobiographie. Il faut peut-être s'arrêter un petit peu sur ce terme-là. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'autobiographie ?
Bon, le mot d'autobiographie apparaît plus tard dans l'histoire littéraire. Le mot qui était disponible peut-être plus aisément, c'était le mot de mémoire que Casanova n'emploie pas. Le terme de mémoire peut renvoyer plutôt à une tradition aristocratique liée à l'écriture de l'histoire. Un grand personnage, témoin d'événements historiques, écrit sa vie parce qu'il est un témoin ou un acteur des événements de l'histoire.
Mais qui peut renvoyer aussi au genre du roman, parce que on parle beaucoup, enfin beaucoup de romans s'intitulent « Mémoire de un tel à cette époque-là ». Donc il y a justement une frontière qui n'est pas très claire entre la fiction et la réalité.
Oui. Il y a trois grands passés, pourrait-on dire, hein, de l'histoire de ma vie, comme texte littéraire. La tradition aristocratique des mémoires, dont Casanova s'empare alors qu'il est roturier pour rendre mémorables parfois des événements de la vie quotidienne. Hein, cette polenta servie directement sur la nappe à Venise, par exemple. Bon, il y a le genre, il y a l'autobiographie émergente, pourrait-on dire, avec les confessions de Rousseau, que Casanova a lues et qui sont pour lui une œuvre littéraire tout à fait fondamentale, même s'il veut s'en distinguer, elle a une grande importance dans son propre parcours hein, d'écrivain. Et il y a le roman, vous avez tout à fait raison de le dire, récit de vie d'un individu qui n'a pas sa place hein, sur la scène de l'histoire, et le récit de vie à la première personne s'expérimente dans le roman avant d'être pratiqué par des autobiographes. Pensons à Marivaux, par exemple, hein, le paysan parvenu, voilà un paysan qui est parvenu, effectivement, qui est donc a connu une certaine ascension sociale, qui raconte sa vie. Pensons à Marianne, toujours de Marivaux, cette orpheline hein, qui raconte sa vie. Voilà, mais ça s'invente dans le roman, hein, ce récit de vie d'un individu non historique en tant que non historique, hein, comme disait René Desmaurys. Et donc, c'est un des passés du texte de Casanova. Alors ensuite, quel est le rapport entre le texte de Casanova et la fiction, hein? Le texte de Casanova est un texte qui parle véritablement de sa vie. Casanova n'est pas dans l'affabulation absolue.
Si mais peut-être organisé pas.
Mais en effet, il y a deux éléments à avoir à l'esprit. Casanova entretient un rapport distancié et ludique avec la véracité. Contrairement à Rousseau, qui prend un engagement de sincérité en faisant sonner les trompettes du jugement dernier, pourrait-on dire, Casanova adresse un sourire complice au lecteur en lui disant ah, vous savez, j'aime la vérité. La preuve, regardez, j'ai toujours menti dans ma vie pour faire entrer la vérité dans l'esprit de ceux qui ne l'aimaient pas. Donc il y a évidemment cette forme de distanciation à l'égard de l'engagement de véracité. Qui est un élément premier. Ensuite, Casanova s'écrit sans doute souvent au miroir des fictions. Sa vie a sans doute été romanesque. Son appréhension du monde était sans doute marquée par le théâtre et le roman. Hein, il n'y a pas de séparation absolue entre la littérature et la vie. Mais quand il écrit, il fait résonner hein, tous les romans du siècle et tout un imaginaire romanesque. Et il se constitue, d'une certaine manière, lui-même, comme une figure centrale de l'imaginaire des Lumières, dans un dialogue constant avec les fictions. Non pas qu'il affabule absolument sa vie, hein, mais s'entremêlent de façon intime le roman, le théâtre, l'existence.
C'est ce que vous appelez l'écrivain en ses fictions. Un mot aussi peut-être sur le travail très précis et puis harassant d'une certaine façon que Casanova a fait sur ce texte pendant 10 années. On a tendance à penser que c'est un texte qui s'est écrit comme ça dans la facilité, qu'il lui a fallu simplement s'asseoir et prendre sa plume pour raconter sa vie. Pas du tout. C'est vraiment un travail très précis, justement, qui fait de lui un écrivain. Peut-être devient-il d'ailleurs vraiment écrivain à ce moment-là ?
Tout à fait, et c'est aussi ce que l'acquisition du manuscrit permet de constater. Alors, on n'a pas tous les avant-textes, hein, on n'a pas un dossier génétique complet pour l'histoire de ma vie, mais enfin, on voit différents états du manuscrit et on voit ce travail du manuscrit. Casanova commence à écrire l'histoire de ma vie, alors, fin 1789 ou un peu plus tard, en 1790, selon les sources, voilà, si on, il y a des allusions dans le texte qui font penser que c'est en 89, mais lui dit autre part que c'est plutôt 1790. Mais enfin, après les premiers mois de la Révolution française, disons, hein, dans ce moment-là. Il y a un premier moment d'écriture jusqu'en 1792, à l'été 1792, qui est un premier jet. Donc là, il écrit vraiment, dit-il, 13 heures par jour. Donc c'est un travail considérable.
Avec
pendant
une sorte
deux ans,
de plaisir. On a l'impression qu'il est même presque en transe.
Voilà. Il semble sortir d'un moment
texte-là.
Plutôt dépressif, disons, et là il jubile. Hein, il retrouve le bonheur dans l'écriture. La conversion à la littérature est aussi une façon de retrouver le bonheur. Et après ce premier temps d'écriture, il ne va cesser de reprendre son texte jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'il est donc à l'été 92, le premier jet est fait. En 94, il rencontre le prince de Ligne. Et à ce moment-là, il reprend tout son texte pour le lui faire lire. Et jusqu'à la fin, on a des traces de correction jusqu'en 1797-1798, quelques mois avant sa mort. Donc c'est vraiment le travail qui occupe les presque les 10 dernières années de sa vie.
Il ne faut donc jamais oublier de présenter Casanova d'abord comme un écrivain. Merci beaucoup Jean-Christophe Higalens. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à Sorbonne Université, responsable avec Éric Le Borgne de l'édition des 3 tomes des Mémoires de Casanova dans la collection Bouquins chez Robert Laffont et auteur également de Casanova, l'écrivain en ses fictions chez Classique Garnier en 2011. C'était La Compagnie des auteurs, une émission proposée par Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Genepin, Laurence Millet, Garance Mazelier et Swad Boukorza. Demain, on se retrouve pour évoquer un autre aspect de la personnalité de Casanova, celle d'entrepreneur et d'aventurier. Mais tout de suite, c'est le moment de retrouver Jacques Bonafé pour sa lecture de poésie.
Bonjour, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bonjour la compagnie. Et qu'aurais-je à faire, messieurs, de vous démontrer ici l'utilité de l'agriculture ? Qui donc pourvoit à nos besoins ? Qui donc fournit à notre subsistance ? N'est-ce pas l'agriculteur ? Nous voyageons cette semaine avec Jérôme Leroy et dans le souvenir du discours au comice agricole de Flaubert dans Madame Bovary qui est d'une brûlante actualité. L'agriculteur, messieurs, qui, en semençant d'une main laborieuse les sillons féconds des campagnes, fait naître le blé, lequel, broyé et mis en poudre au moyen d'ingénieux appareils, en sort sous le nom de farine, et de là transporté dans les cités, et bientôt rendu chez le boulanger qui en confectionne un aliment pour le pauvre comme pour le riche. En même temps, il faut pas non plus tout le temps sauter sur « en même temps » en faisant des remarques d'actualité. C'est un poème à la page 27 de Jérôme Leroy qui commence par « en même temps, comment voulez-vous désespérer d'un pays où le petit train passe par Saint-Priest-Torion, Brignac-Saint-Léonard-de-Nobla, Saint-Denis-des-Murs, Châteauneuf-Bujaleuf, Émoutiers, lac de Vassivière, sol semé de héros ?» La Selle, Corrèze, Bugeat, Pérol, Jassonnet, Mémac, Ussel, ciel plein de passereaux, avec à bord une contrôleuse aux yeux de forêt. Oui, une contrôleuse aux yeux de forêt, monsieur Jérôme Leroy. Bon, attention, ça fait penser à l'image un peu figée de Bilal pour le printemps des poètes. La beauté, oui. Ben ça, c'est un autre comique agricole. Alors, le discours qui a été fait par un haut responsable de je ne dirais pas qui. C'est sans doute la beauté, l'un des motifs éternels les plus prisés par les poètes eux-mêmes de l'Antiquité à nos jours. Vous voyez que ce discours de Flaubert encore quand même de la ressource. C'est aussi l'un des symboles par excellence de la quête poétique. Cette quête qui fait que le poète se dépasse, se transcende, s'élance vers autre chose, à la recherche de l'essentiel. Revenons à Jérôme Leroy, hein, un peu de sérieux. Loin des autres, dans ces coins-là, on peut se passer des autres, je t'assure, lui dit-elle, yeux battus dans ce train régional. Je n'ai plus envie de parler à aucun d'eux. On pourrait, si tu m'aimes, descendre à la prochaine gare. On ne connaîtra absolument personne. On demandera dans un bistrot si quelqu'un loue des chambres ou une maison. Cela ne doit pas être trop cher dans ces coins-là, qui sont jolis pourtant. Quelques jours, quelques semaines ou quelques mois loin des autres, on lirait sur un banc bien exposé du square. Il y a chaque fois un square dans ces coins-là, près du château ou bien derrière la mairie, avec une statue de gloire locale et le bruit très lointain le soir. Du dernier train régional. En lisant Le Roi, on se sent soi-même revivre. Le monde en voie de disparition dont il est le chantre a été le nôtre, dit Gérard Guégan dans Sud-Ouest.
Jacques Bonafé qui nous lit cette semaine des extraits, notamment du recueil « Nager vers la Norvège » de Jérôme Le Roy.